France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Quand on pense au polder, on pense à ces terrains gagnés sur la mer aux Pays-Bas ou en Belgique, mais on ne pense pas forcément tout de suite au littoral français. Pourtant, en France aussi, cette technique d'assèchement des sols a été pratiquée au Moyen-Âge, près de l'actuel Dunkerque. Ce sont des hectares et des hectares de terre qui ont patiemment été gagnés sur les estuaires en quelques siècles, permettant aux humains de s'installer et de cultiver durablement ces nouvelles terres agricoles du puissant comté de Flandre. La construction actuelle du futur grand port maritime de Dunkerque est une occasion inespérée de fouiller préventivement ces vastes zones de polder méconnu. Une campagne récente a permis d'apporter de l'eau au moulin de cette archéologie des polders encore pionnière et de nous livrer des informations particulièrement riches sur l'occupation des lieux, grâce entre autres à des vestiges architecturaux et mobiliers. Bonjour Pauline Lomel.
Bonjour.
Vous êtes archéologue à l'INRAP et vous êtes la coordinatrice scientifique des opérations de fouilles de 2024-2025 sur le site du Grand Port Maritime de Dunkerque. Des fouilles dont on va bien sûr décrire en détail les résultats. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir nous faire donc découvrir les enjeux de cette archéologie des polders pour bien saisir à la fois le caractère hors norme, non seulement de ces aménagements du passé, mais aussi des campagnes de fouilles qui se sont déroulées sur le littoral dunkerquois. Et pour qu'on se rende compte des difficultés propres à cette archéologie des polders, j'aimerais que vous nous aidiez à nous inscrire dans ce paysage bien particulier de ce littoral de la mer du Nord. Est-ce que vous pourriez nous faire un panorama, déjà nous décrire l'environnement dans lequel vous travaillez?
Bien sûr. Actuellement, on travaille sur des grandes zones agricoles, hein, donc on est quasiment sur plus de 1500 hectares qui ont pu être investigués avec le diagnostic archéologique. Donc voilà, actuellement, on est sur des vastes zones agricoles qui sont du coup en cours d'investissement et d'industrialisation avec l'installation portuaire et notamment les grandes entreprises qui vont venir se construire autour du grand port.
Ça n'a pas toujours été des zones agricoles.
Ça n'a pas toujours été des zones agricoles, effectivement. Dans le courant du Moyen-Âge, principalement sur la période du Moyen-Âge, il faut s'imaginer qu'on va être sur un estuaire marin. Donc ça va être un paysage qui va être semblable à la baie du Mont-Saint-Michel ou du coup à la baie de Somme. Donc on va être sur un espace avec des entrées maritimes quasi quotidiennes. On va avoir des espaces dunaires, on va avoir des espaces de marais salants, des espaces maritimes. Voilà. On est soumis complètement à la marée et vraiment dans un espace littoral pur comme on peut l'imaginer aujourd'hui.
Quels effets a cette intrication entre la mer et la terre dans cet espace-là sur la géologie, sur la morphologie du paysage ?
Alors on est vraiment sur une géologie assez particulière, donc en fait on est ce qu'on appelle dans la plaine maritime flamande, donc c'est une entité géologique qui va de Calais et qui va remonter jusqu'à la Belgique, voire aux franges de la Hollande, et on est sur un paysage assez particulier avec des incursions marines, des grands estuaires marins qui vont vraiment venir façonner complètement le paysage. Très longtemps on a considéré qu'on avait des incursions, des grandes transgressions maritimes qui ont empêché les installations humaines, et du coup nos opérations ont tendance à prouver le contraire aujourd'hui et qu'on avait de l'installation de manière très ancienne.
Cette incursion maritime récurrente, ça a un effet aussi sur la richesse ou la pauvreté du sol. C'est pas du tout des terres arables, des terres qu'on peut cultiver.
Non, faut s'imaginer qu'on est vraiment sur un espace salin. Au final, on est quasiment sur des zones où on pouvait voir une plage comme on l'imagine aujourd'hui, avec du fou, du sable, des zones de vaseuses, et du coup un arrière qui va être plutôt marécageux, avec du coup des incursions maritimes qui vont se faire un peu plus rares, plutôt aux grandes marées, donc qui laissent des espaces de marais salants, comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Voilà, effectivement, la baie de Somme, les baies du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment les paysages auxquels on peut se rapprocher le plus.
Il y a deux mots qu'on peut décrire, définir, c'est le slick et le shore, que sont ces deux termes-là?
Alors, on est vraiment sur des termes très particuliers. Du coup, le score, au final, va être toute cette partie. On va être sur toute cette partie qui va être soumise aux incursions marines, plutôt des marées de vives eaux, donc c'est des grandes marées. Donc, qui va être pas soumis aux incursions maritimes quotidiennes, et la slick, où là, du coup, on va être plutôt sur une zone qui va connaître une entrée maritime quotidienne.
Alors, si ces régions étaient marécageuses et finalement peu cultivables, est-ce qu'elles étaient pour autant inhabitées jusqu'au Moyen-Âge?
Alors, vraiment, tout début du Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup d'informations, parce que justement, on essaye de trouver les traces les plus anciennes. Donc, par exemple, sur la période mérovingienne, pour l'instant, on a très peu d'indices à savoir ce qui se passe exactement sur ce secteur-là. C'est vraiment la période carolingienne qui va nous intéresser, où on a les premières implantations humaines. Donc, on va avoir des traces, du coup, de zones où on va faire paître du mouton. Donc, au final, on va avoir des restes de bergerie, par exemple, des bercarias. Et après coup, on va avoir vraiment de l'habitat en fait qui va venir se développer sur ces zones-là.
Et auparavant, donc pas du tout. Moi, j'ai entendu parler des morins, de cités lacustres. Tout ça m'a fait un peu rêver, mais c'est vraiment.
Alors là, c'est toute la complexité de la plaine maritime flamande, c'est que du coup, on va avoir des espaces dunaires qui globalement vont être occupés de manière un peu plus ancienne. Donc, on a réussi à déterminer qu'on peut avoir déjà des occupations à la période romaine. De manière beaucoup plus anecdotique, on va avoir des occupations proto-historiques, plus la période gauloise globalement. Mais on a vraiment, c'est toute cette complexité qui fait qu'il y a des endroits, on va les trouver très haut, très proche du littoral, très proche du bord de mer, sur les espaces dunaires. Et quand on va commencer à rentrer dans les zones plus estuariennes, du coup plus soumises à la marée, où là, du coup, on n'aura pas du tout de traces humaines avant quasiment la période carolingienne.
Alors, cette période carolingienne, pourquoi est-elle aussi importante dans l'aménagement de ce littoral-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là, historiquement?
Du coup, historiquement, c'est assez intéressant, parce qu'on a vraiment cette montée en puissance des comtés, des genre de limites de petites principautés qui vont se mettre en place. On a des comtés relativement puissants, donc ce qui nous concerne, on va être chez les comtes de Flandre, qui vont
Baudouin,
prendre beaucoup
bras
de pouvoir.
De fer, donc,
exactement. Qui va prendre beaucoup de pouvoir. Et qui va du coup un peu s'accaparer ces zones littorales qui lui reviennent de droit au final, qui sont inoccupées. Et donc du coup, lui, il va en profiter pour commencer à faire paître des moutons et du coup vraiment essayer de développer toute l'économie qu'il y a derrière, notamment l'économie du drap de laine, où du coup le drap de laine est une denrée qui s'échange énormément dans le courant du Moyen-Âge et qui peut être très recherchée.
Alors comment se développe progressivement cet aménagement du littoral? Est-ce que ça part de cette région d'Incarquoise ou bien est-ce que déjà au nord de ce comté de Flandre, il y a déjà des premières tentatives de poldérisation? On va bien sûr décrire ce principe-là et cette ingénierie-là, mais comment tout cela commence-t-il?
C'est vraiment au tout début de la période carolingienne où vraiment voir des premiers aménagements se mettre en place, notamment sous la forme du coup de grands fossés drainants qui vont venir assécher au final les terres et permettre justement des premières implantations. Globalement, on observe ça sur vraiment toute la zone, principalement la zone d'Incarquoise, la zone qui est plus autour de Calais, est déjà plus ou moins asséchée. On est vraiment sur un système de fermeture de la plaine maritime, donc plus un espace dunaire en cours de formation et de stabilisation. C'est vraiment le Dunkerquois qui va montrer ce genre d'implantation et de système de poldérisation.
Parmi les plus anciens, du coup. Alors, quand on parle de polder, pour certains d'entre nous et pour certaines d'entre nous, les cours de géo sont un peu loin, donc on va peut-être rappeler ce que c'est. Et comment, finalement, étape par étape, on peut parvenir à gagner du terrain sur la mer?
C'est vraiment tout un travail qui est énorme au final, surtout pour cette période. Il faut s'imaginer qu'on fait absolument tout à la main. Étonnamment, on s'est rendu compte qu'ils ont une très grande connaissance de leur territoire, et notamment du territoire littoral, qui devait être quand même très peu facile d'accès. Au final, ce qu'ils vont vraiment mettre en place, c'est creuser des grands fossés, du coup, qui vont être parallèles au final à l'estuaire et du coup qui va commencer à limiter les entrées maritimes. Et au fur et à mesure qu'on va commencer à drainer la terre et limiter les entrées maritimes, donc la marée quotidienne ne viendra plus forcément jusque-là, globalement le terrain va s'assécher et donc on va pouvoir conquérir comme ça au fur et à mesure de la terre et reculer. En fait, on va faire que ça, on va faire un premier front digue. Une fois qu'on a réussi à stabiliser l'ensemble, on va faire un deuxième front digue et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait globalement forcé l'estuaire à se refermer quasi naturellement au final.
Ça se fait pas en un jour tout ça?
Ça se fait pas en un jour,
ça
s'est fait en plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.
Ok, alors on passe là d'une zone humide littorale de transition donc qui sert finalement pas, qui n'est pas trop utile, à une zone de terre agricole durable qui permet une rente foncière, donc c'est pas rien. À qui va profiter finalement cette poldérisation-là?
C'est vraiment au comte de Flandre que ça a profité, qui du coup, lui, va permettre d'un point de vue économique, déjà, effectivement, d'avoir beaucoup plus de terres. Et du coup, va également permettre l'installation de grandes fermes, qui forcément va lui rapporter un petit peu plus de revenus.
Quel type de pratique agricole?
Et par la suite, au final, on va avoir le développement de ports, de grandes villes fortifiées qui vont venir s'implanter sur les bords, comme Gravelines, par exemple, ou Dunkerque, évidemment, qui vont être, du coup, des villes et des grands ports assez connus et sur lesquels, effectivement, il va y avoir beaucoup de marchandises qui vont passer. Et donc forcément, plus de richesses et donc plus de pouvoir pour le comte de Flandre, effectivement.
Quelles sont les pratiques agricoles réalisées sur ces zones de polder? Est-ce qu'il y a des cultures spécifiques, des types d'élevage spécifiques?
Alors du coup, il y a un type d'élevage effectivement assez particulier. Donc on va principalement effectivement faire paître du mouton, ce qui est un animal qui s'adapte assez facilement au final à ces zones de marais salants ou de zones en cours de stabilisation. Les fouilles archéologiques ont montré que, mine de rien, on a quand même pas mal de bovidés sur place aussi, et un petit peu d'équidés, chose auxquelles on ne s'attendait pas il y a encore une dizaine d'années sur les premières opérations. Donc là, justement, il y a un gros travail qui est fait par les collègues, notamment les archéozoologues, qui travaillent justement sur toute cette domestication et l'adaptation des animaux sur le littoral. Ce qui est hyper intéressant. Et d'un point de vue culture, on va être principalement sur du lin, du chanvre, qui sont des cultures qu'on fait encore actuellement dans le nord de la France, qui vont bien s'adapter au milieu humide et qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour également faire du textile.
Quelle est la durée de vie de ces aménagements-là réalisés donc à l'époque carolingienne ? Est-ce qu'il y a quand même des aléas qui vont les mettre à bas et qui vont obliger les sociétés à reconstruire ces polders ?
Oui, exactement. Alors du coup, sur les fossés digues, on a remarqué depuis quelques années, donc c'est notamment mes collègues Laurent Descott et Mathieu Lançon qui ont mis ça en avant, on a ce qu'on appelle des ombiliques de brèche. Donc en fait, c'est des ruptures au niveau des fossés digues, alors qui va être créé soit par un épisode tempétueux, une marée plus importante, qui va globalement emporter une partie du fossé et qui va créer une déformation assez profonde de l'environnement et qui va tout emborder, qui peut créer des cratères quasiment de 25 mètres de diamètre, ce qui est quand même très conséquent.
Colossal, ouais.
Et du coup, on s'est rendu compte que l'homme réagit très vite et en fait va englober ces ombiliques de brèche au sein des digues. Donc ils vont recreuser des digues et ils vont venir les imbriquer complètement dans leur nouvel espace au final et s'en servir comme des espaces d'eau douce. Du coup, une mare, tout un espace qu'ils peuvent utiliser au sein de l'habitat.
Pauline Lomel, en préparant cette émission, j'ai découvert un autre mot, c'est wateringue. et ce qui est fascinant, c'est que ce wateringue-là va avec toute une sociologie qui est propre à ces espaces de polder et qui est très très intéressante parce que ces aménagements-là implique aussi une adaptation politique et une organisation politique autour de ces restructurations du territoire.
Complètement. Les wateringues, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc globalement, les wateringues, on va être sur des fossés qui vont être très conséquents, qui vont être quand même très très larges, entretenus. On considère que les wateringues qui existent encore aujourd'hui chez nous dans le nord de la France, il y en a certains qui ont leur apparition dans le courant du Moyen-Âge, peut-être même qui remontent quasiment à la période carolingienne et sont entretenus très très longtemps. Et effectivement, c'est vraiment un nerf de la guerre, c'est d'entretenir les fossés. Et ces fameux wateringues qui sont très conséquents parce qu'ils vont permettre de drainer en profondeur les terres et même encore aujourd'hui.
Alors en France, on est pendant longtemps passé à côté de ces polders médiévaux. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y intéressait pas ou est-ce qu'on estimait qu'il n'y avait pas ce genre d'aménagement aussi important sous nos latitudes ?
Alors effectivement, je pense que le littoral, on a mis très longtemps à s'y mettre du fait de sa complexité aussi. Potentiellement le manque d'aménagement aussi pendant très longtemps. Il y a eu quelques tentatives à la fin des années 90, au début des années 2000, avec quelques petites fouilles sporadiques qui sont vraiment des petits spots de fouilles. Il faut vraiment attendre le début des années 2000, la mise en place de plus grands travaux, qui fait que par le biais préventif, on a pu vraiment travailler en profondeur sur la question du littoral du nord de la France. Et qui nous apporte beaucoup, beaucoup de questions, de problématiques.
Du coup, c'est un plaisir de pouvoir recevoir une pionnière, puisque l'archéologie des polders est une archéologie, je le disais en introduction de cette émission, assez pionnière. Ça consiste en quoi ? Quels sont les principes fondamentaux de cette archéologie des polders, ses missions et ses contraintes ?
Alors, les contraintes, elles sont nombreuses. Parce qu'on va pas se mentir, c'est des terrains assez difficiles d'accès. Du fait déjà, aujourd'hui, par exemple, en termes d'altitude, on est très peu élevé au final. On va être sur une altitude qui va être entre 2 et 3 mètres NGF par rapport au niveau de la mer actuelle. Donc, au final, on est très peu élevé, qui fait que c'est des terrains sur lesquels on peut intervenir principalement en printemps à l'été. À partir de cette période-là, c'est inaccessible totalement. On a beaucoup de choses à apprendre. Du coup, on est obligé d'imbriquer beaucoup, beaucoup de spécialités au sein de l'archéologie littorale. Alors, un gros travail, effectivement, avec les géologues, qui nous permettent vraiment de comprendre dans quoi on vient s'implanter. Du coup, je pense que vous avez vu dans les quelques rapports que vous avez pu feuilleter, on fait un gros travail aussi en amont avec du coup la géophysique qui nous permet de savoir exactement sur quoi on va travailler, des zones sableuses, des zones argileuses, des zones plutôt humides. Et après, on fait un gros travail aussi avec tous nos collègues du paléo-environnement qui, eux, nous apportent énormément d'informations. Parce que le fait, effectivement, de travailler dans les milieux humides fait que, du coup, les éléments organiques sont très bien préservés. Et on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations nouvelles, notamment sur les cultures, sur le textile, sur la pêche, sur énormément de problématiques.
Ça nous donne des détails, même sur des dimensions culturelles très, très spécifiques. La campagne de fouilles que vous avez réalisée à deux pas de Dunkerque, Pauline Lomel, c'est pas la première première qui a été réalisée dans cette région de polders médiévaux. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit historique de comment ces campagnes de fouilles successives se sont développées et quels étaient finalement les grands objectifs affichés?
Donc là, du coup, vraiment axé sur le littoral du Grand Dunkerquois, on va avoir des fouilles qui ont commencé dans le courant des années 2000, avec du coup la mise en avant de premiers bâtiments carolingiens, de premières zones d'habitat, de premiers polders. Alors on était sur des toutes petites zones très réduites au niveau des emprises de fouilles, qui fait que globalement, on fouillait l'habitat, mais sans vraiment comprendre tout l'environnement. Après, on a commencé à développer, de fouiller des plus grands espaces. Et là, c'est vraiment du coup le développement du grand port de Dunkerque qui nous a permis de travailler sur du coup une superficie qui est énorme.
C'est une aubaine finalement là dans ces
zones. C'est une aubaine pour nous, ouais. Le fait que du coup le grand port soit très dynamique. Du coup, il y a un bel agrandissement de l'infrastructure, nous permet de mener les diagnostics. Donc là, à l'heure actuelle, on est à peu près sur 1500 hectares de zones diagnostiquées par Mathieu Lançon. Qui est du coup qui déblaye le terrain et qui nous donne toutes les clés quasiment pour faire des belles fouilles derrière. Il y a eu deux campagnes de fouilles précédentes. Donc il y a une campagne qui a été menée par Samuel de Souterre pour l'INRAP.
Qui avait rencontré justement Vincent Charpentier dans Carbone 14 il y a quelques années.
Exactement, du coup en 2023-2024. La société EVA qui a fait également une fouille en 2023-2024. Et donc là, nous, la nouvelle campagne 2024-2025.
2023-2024, qu'est-ce qui a été mis au jour globalement durant ces campagnes de fouilles?
Alors du coup, ils ont principalement travaillé sur des zones d'habitat qui sont un petit peu plus tardives, donc qui vont être plus axées sur la fin du Moyen-Âge. On va être plus autour du 14e, 15e, début de l'époque moderne. C'est principalement des zones d'habitat, des restes de fermes, des vestiges de fermes déjà bien implantés qui ont été fouillés. On est sur des zones de fouilles qui ont été un peu plus conséquentes que celles qu'on a menées pendant 2 ans. On est plus autour des 10 hectares, si mon souvenir est bon. Mmh. Et donc leur rapport est également en cours de rédaction.
Une question que je me posais en préparant cette émission, c'est on parle de polder, on parle de digues, on parle d'aménagements qui sont conséquents. Est-ce qu'on a des traces matérielles évidentes de ces digues, de ces aménagements-là qui sont importants?
Alors du coup, les digues, globalement, on va retrouver les fossés. Donc en fait, une digue, il faut s'imaginer qu'ils vont creuser un fossé. Toute la terre qui va être issue du creusement du fossé va être mise sur le côté et faire une sorte de petit promontoire sur le côté. Donc au final, on va pas du tout retrouver cette trace de levée de terre ou vraiment sur quelques centimètres, mais vraiment globalement, on n'en a pas trop d'idées sur la hauteur de l'élévation, des choses comme ça. Par contre, on va vraiment trouver les fossés. Les fossés sont assez intéressants parce que globalement, le fait de pouvoir investiguer des grands territoires, c'est qu'on va pouvoir suivre au final ces fossés de parcelle en parcelle et essayer de déterminer justement des longueurs de digues, de fossés de digues, voir jusqu'où ils s'implantaient et comment ils les ont implantés au sein de leur territoire et de l'estuaire.
Ça représente quelle superficie justement ces aménagements? Alors, c'est très important.
C'est très important. On peut être sur des centaines de mètres pour les fossés. Donc là, c'est pour ça. Donc là, c'est le travail qu'on va faire à terme avec tous les collègues. On fait un énorme travail commun. Et du coup, on va essayer de déterminer justement l'emprise totale de tous ces fossés digues. À quelle vitesse on va faire les fossés, les uns parallèles aux autres? Est-ce que du coup, l'assèchement se fait rapidement? Est-ce qu'il est long? On a beaucoup de questions.
Comment on peut déterminer justement la rapidité ou non de cet assèchement?
Et bien justement, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir justement à déterminer ce temps? Je pense que du coup, il faudra regarder aussi au niveau des habitats qui vont venir s'implanter derrière, qui eux-mêmes vont créer leur propre système fossoyer autour de l'habitat pour venir assécher les terrains. Donc il y a des zones où au final, on va pas du tout avoir de système fossoyer autour de l'habitat, qui permet de vraiment d'assécher définitivement le secteur. Des fois, on va juste avoir un grand fossé de digue et l'habitat qui est implanté directement derrière. Donc là, on peut considérer que le terrain, globalement, s'est asséché relativement rapidement. Plus on va avancer dans l'estuaire et plus, certainement, les parcelles seront longues à s'assécher.
Je le disais, Pauline Lomel, vous avez coordonné la dernière campagne de fouilles qui a eu lieu dans cette région en 2024-2025. Comment s'organisait cette fouille? Quels étaient justement les principaux points de travail?
Donc là, on s'est organisé, on a eu donc au final, c'était 6 fouilles. Hein. Donc on a eu 6 lots de fouilles. On a un premier lot qui est un petit peu excentré et 5 fouilles très proches les unes des autres, avec comme problématique principale vraiment l'habitat carolingien. On a travaillé sur les toutes premières implantations des sites et de comprendre au final les différents types d'habitat, de déterminer leur implantation, essayer de comprendre l'organisation globale. Et du coup, à terme, c'est d'essayer de déterminer l'organisation vraiment globale de tous ces sites par rapport les uns aux autres. Essayer de définir aussi au mieux une chronologie, parce qu'on parle de la période carolingienne, mais en fait, on est sur une période relativement vaste.
C'est assez vaste, c'est fin du 8e siècle, début du 11e.
Ouais, c'est ça. Globalement, on va être sur une période assez vaste, au final, qui va englober plus de 2 siècles, donc 200 ans, ce qui est énorme. On se doute bien que, du coup, pendant 200 ans, les habitats ne sont pas contemporains les uns des autres. Donc là, on va essayer de déterminer, de redéfinir complètement la chronologie carolingienne. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que, du coup, on a trouvé pas mal d'éléments organiques.
Parlons de ces découvertes, quand même. Parce que vous êtes là pour ça.
Du coup, alors, la grande découverte de ces fouilles, c'est du coup la mise en avant d'habitats un petit peu différents de ce qu'on connaissait habituellement sur la plaine maritime flamande. Donc, ce qu'on connaît, c'est une typologie plutôt bien cadrée aujourd'hui, avec des bâtiments, des grands bâtiments sur poteaux. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve des fois sur des périodes plus
anciennes.
Quelle
dimension à peu près
donc
ces bâtiments?
Donc on pète sur des bâtiments qui vont être autour de 100-150 mètres carrés, ce qui sont déjà plutôt conséquents. Donc des grands bâtiments plutôt dédiés à l'habitation, avec des petits bâtiments annexes pour les activités artisanales. Là, ce qu'on a mis en avant, c'est vraiment des grands bâtiments qui, pour le coup, ils sont excavés. Donc globalement, ils sont semi-enterrés. Ils ont fait une grande excavation. Donc là, on est sur des bâtiments qui sont autour de 100 mètres carrés. Donc on en a trouvé 2 bâtiments d'habitation et un ensemble plutôt bien construit, vraiment organisé, avec un grand bâtiment d'habitation globalement qui fait un L et avec 2 petits bâtiments plutôt dédiés à l'artisanat qui vont venir s'articuler et organiser tout l'espace.
Est-ce que ces habitations, ces bâtiments semi-enterrés, c'est quelque chose qu'on avait déjà découvert en France ou dans cette région, ou bien est-ce que c'est une vraie première?
Alors, en France, on n'avait jamais vu, c'est vraiment une première. Donc, ça avait été, la question avait été lancée par Mathieu Lançon, le collègue qui mène les diagnostics, parce que du coup, ça a été vu une première fois en diagnostic. Justement, la question a été lancée de savoir quel est ce type de bâtiment qu'on ne connaît pas. Donc, nous, en France, c'est vraiment la grande première. Ça a déjà été fouillé en Belgique. Donc, il y a eu un site qui a été fouillé à Coxyde, qui est pas très loin de la frontière française. Voilà, pour l'instant, c'est le seul exemple qu'on est plus près. Après, il faut qu'on remonte effectivement plus vers la Hollande. Et bon, je pense que du coup, vous voyez venir, c'est
la Hollande, après on va aller chercher les peuples nordiques.
Voilà, on va aller chercher les références.
Ça recolle finalement avec cette idée des raids vikings, tout simplement. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être eu des contacts, pour parler poliment, culturels, qui ont fait que ces types d'habitats typiquement nordiques se sont retrouvés à être construits finalement dans cette zone de polder.
Historiquement, on sait qu'en tous les cas, les populations nordiques sont sur place. Ça, c'est bien connu. On sait qu'il y a des raids, notamment sur le port du Quintovic, qui est un petit peu plus bas sur le littoral du nord de la France, dans la vallée de la Canche. On sait qu'historiquement, ils sont là. Il y a des raids sur l'abbaye de Saint-Bertin, qui est du coup un petit peu en recul. Donc on sait qu'ils ont navigué par l'estuaire de l'Aa, qui est vraiment voisin des zones sur lesquelles on a travaillé sur ces sites portuaires de Dunkerque. On a par exemple l'histoire du comté de Guînes, qui est aujourd'hui une commune qui est en périphérie de Calais, où la personne qui met en place la lignée des comtes de Guînes est Siegfried le Danois. Donc historiquement, on sait qu'ils sont là. Voilà, maintenant, du coup, on a certainement trouvé les traces de la culture matérielle. En tout cas, on sait que... En tout cas, il y a un passage, il se passe quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là.
Est-ce qu'on arrive à dater quand ces bâtiments ont été édifiés ou pas?
Alors, c'est la grande question, c'est que pour l'instant, effectivement, on reste sur cette grande période carolingienne. On va être daté entre du 9e et du 10e siècle. Donc là, il y a beaucoup d'études qui vont être encore menées. Alors, notamment sur un des habitats où on a eu la chance de trouver du bois extrêmement bien conservé dans un milieu humide. Donc là, on va pouvoir lancer une dendrochronologie dessus et espérer avoir une datation beaucoup plus précise que la céramique qui, du coup, globalement, les céramiques de la période carolingienne vont se retrouver quasiment pendant 200 ans à être la même.
Oui, c'est moins évident, on va dire.
Voilà, c'est moins évident. On fait pas mal de datations carbone 14, mais bon, c'est toujours avec les limites, effectivement, du carbone 14, où on ne peut pas aller au-delà, des fois, de 100 ans, au final. Donc, on espère que la dendro, justement, va nous apporter un petit
plus.
La dendrochronologie. On espère qu'elle va nous apporter un petit plus et pouvoir justement resserrer la maille chronologique.
On a parlé, Pauline Lomel, de ces bâtiments, donc très impressionnants, de ces premières en France, de ces bâtiments semi-enterrés. Il y a bien sûr des éléments matériels aussi, des objets, du mobilier qui a été découvert dans le cadre de ces dernières fouilles. Quels sont ces types de mobilier-là et comment nous ramènent-ils eux aussi d'une certaine façon vers un plus grand nord?
Alors du coup, on a trouvé des petits objets réalisés avec des pattes d'animaux, ce qu'on appelle des griffes de temple. Donc il faut s'imaginer un tout petit objet tronc conique qui fait à peu près 5-6 cm, entièrement sculpté et, avec une surface plane et trois petites dents aménagées d'un côté. Donc ça ressemble un petit peu à une fourchette. C'est un petit objet assez rigolo et qui vient s'intercaler du coup dans un métier à tisser vertical. Alors j'ai envoyé des photos à tous les collègues qui s'occupe du petit mobilier à travers la France. Je tiens à remercier d'ailleurs aujourd'hui.
La solidarité.
La solidarité et qui m'ont très gentiment répondu pour me dire notamment les spécialistes du travail textile sur la période du Moyen-Âge et qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de mobilier. En menant pas mal de recherches, au final, on en a trouvé, alors du coup, beaucoup en Hollande. On a trouvé un peu en Angleterre et après, on va remonter vers l'Allemagne, la Pologne. Et évidemment, du coup, on va se retrouver vers le Danemark et toute la Scandinavie où on va retrouver ce genre de mobilier un petit peu particulier qui a priori n'est pas connu en France.
Donc c'est une première là pour le coup, voilà. À nouveau, avec ces petits objets qui sont très beaux. On partagera bien sûr une image de ces petits peignes à laine, on va dire, comment les nommer sur la page de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui ont émergé, qui ont aussi un intérêt important?
Alors au niveau du moment du diagnostic, ils ont trouvé aussi une fibule, donc dans ce bâtiment excavé qu'on a fouillé par la suite, pareil qui se rapproche plutôt d'une tradition scandinave. Donc c'est une jolie fibule ronde avec du coup une forme un peu de dragon stylisé, quelque chose d'assez joli qui effectivement va avoir tendance à nous ramener sur une culture matérielle plutôt des pays nordiques. Donc là, on est en train de regarder tout ce qui se passe vers le nord.
Puis il y a d'autres éléments aussi, des éléments de boucherie. On est aussi sur une zone qui était quand même très active d'un point de vue artisanal, pas que pour la laine, mais aussi pour le travail de la viande, on imagine.
Oui, exactement. Du coup, on a énormément d'activités. On a du coup, l'activité de pêche. On est quand même en bord de mer, donc effectivement on a une activité de pêche qui est assez conséquente, de la pêche à pied, donc on va chercher du coquillage. Le coquillage, on va en faire pas mal de choses, on va l'exploiter, on va le manger, on va en faire réduire en poudre pour en mettre dans la céramique, enfin dans l'argile liée à la céramique. On va faire du textile, on va faire beaucoup de choses, on va élever les animaux, on va faire effectivement de la boucherie. On a trouvé des traces de boucherie, alors sur une période un tout petit peu plus récente, en fait, on va plus être sur le 11e, 12e siècle, mais on a trouvé des traces de boucherie et potentiellement de tannerie.
Des couteaux aussi, une flûte en os.
Exactement, très jolie flûte en os qu'on a trouvée justement dans ces vestiges qui seront plutôt liés autour de la tannerie et de la boucherie. Donc là, on cherche un petit peu des références sur ce bel objet.
Pour conclure, Pauline Lomel, quelles questions ça nous pose ces découvertes? C'est toujours le miracle de la science, c'est quand on trouve quelque chose, il y a plein de questions qui se posent. Quelles sont ces questions-là?
Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement, sur déjà les populations, aussi bien pour nos bâtiments qu'on connaît bien et que sur ces nouveaux bâtiments, c'est qui vit là, au final, et qu'est-ce qu'ils viennent faire comme activité de manière précise, combien de temps ont-ils vécu là, quelle importance, au final, ont-ils eu aussi sur eux, sur l'exploitation du littoral, sur la poldérisation. Donc là, on est avec plusieurs collègues, on travaille sur un PCR, le PCR Polder, qui est dirigé par Mathieu Lançon, qui gère les diagnostics. Et donc, on est plusieurs archéologues à mener ce projet. Et du coup, on espère à terme avoir beaucoup, beaucoup de réponses à apporter. Et si je peux me permettre, je tiens à remercier vivement l'équipe de fouille, parce qu'effectivement, je n'ai pas réalisé cette opération toute seule. Trois responsables d'opération et une équipe qui a été jusqu'à 22 personnes.
Bon, on les salue et on vous remercie, Pauline Lomel, beaucoup. J'espère que vous aurez d'autres belles découvertes à venir nous partager ici, à partager avec nous à ce micro. Et on vous dit à très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve-Étienne, Nafi Terras, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Grégory Wallon, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.